chanteuse Galia à travers cet album Mississippi Blend, disque du mois de décembre pour Sweet Home Chicago. Galia qui sera l'invité de l'émission le 11 janvier prochain. En attendant, dans quelques minutes, on va laisser la place à notre second invité, Jean-Pierre Auvray, qui est 50% d'Acoustic Trip avec Fredo Mahé. Jean-Pierre Auvray qui va nous présenter cet album live à la Loco.
Un très vieux morceau de Robert Johnson. Robert Johnson, le plus grand bluesman, le plus connu, avait rencontré le diable à un carrefour, et après avoir rencontré le diable, il jouait le blues divinement. Voilà, c'est paradoxal.
Voilà, c'est du live, c'était enregistré live à la Loco, et c'est le duo Acoustic Trip dont Jean-Pierre Auvray est présent dans le studio. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, voilà, bonjour aux auditeurs.
On t'entend bien, voilà, super, c'était le bon micro. J'étais pas sûr, puisque bah, ici il faut tout faire, hein, c'est la technique aussi. Je disais 50% d'Acoustic Trip, c'était peut-être un petit peu sous-évalué, je sais pas, on en parlera tout à l'heure. quels sont, comment ça fonctionne ce duo, parce que c'est un petit peu bicéphale comme formation. Mais avant, peut-être Jean-Pierre nous rappeler, parce que ça fait un moment que t'étais pas venu, c'était depuis le 9 mars dernier, tu nous avais, avec Jacques Picard, présenté une soirée à Évrecy. Tu pourrais nous retracer en quelques phrases ton parcours musical, nous parler par exemple de Thierry Antille.
Oui. Hein, Oui, ça fait 40 ans en fait que j'ai commencé à jouer autrement que tout seul sur ma guitare classique d'abord et folk ensuite. J'ai commencé à jouer avec Marc Blanchin, un pianiste de blues bien connu des aficionados du blues canet, dans un groupe qui s'appelait pas encore White on Blues. Et ensuite, effectivement, une belle expérience avec Thierry Anquetil au sein d'Urban.
Urban Blues Band, oui. Voilà, je me souviens de cette époque-là. On est il y a une petite trentaine d'années avec notamment un live à Coutances qui avait fait.
En 88,
oui. En vinyle, bien sûr.
Bien sûr, hein. En vinyle.
Et puis depuis fin des années 80, il y a eu d'autres choses également avec Thierry.
Oui, avec Thierry, c'est-à-dire qu'on s'est un peu perdu de vue. Au début des années 90, il y avait l'opportunité à la suite de ce disque enregistré à Coutances, il y avait l'opportunité pour Thierry qui était quand même la tête de gondole d'Urban Blues Band. Faut dire les choses comme elles sont. Il était le guitariste, chanteur, leader et on a eu un bon accueil suite à ce disque et il en a résulté un certain nombre de premières parties très gratifiantes. Ray Charles, Chuck Berry, le festival de blues à Cahors et tout ça. Et donc des propositions, un très bon article dans Soul Bag.
Otis Rush aussi.
Otis Rush, ouais. Otis Rush qui était vraiment le guitariste de référence pour Thierry. Donc c'était un moment de grande émotion. Pour Thierry et pour nous, quoi. Voilà. Et donc, il y a eu des propositions qui ciblaient surtout Thierry pour partir, peut-être, tenter une carrière sur Paris. Bon, voilà, il a choisi plutôt de rester sur la région pour les raisons personnelles et complètement respectables. On s'est un peu perdu de vue parce que moi, j'étais dans un projet professionnel qui m'éloignait momentanément aussi de Caen. Et puis, on s'est retrouvés et on a remonté effectivement un duo. Puis un trio, puis un quartet qui s'appelait. Le trio s'appelait Aza, Anquetil, Zanqueta, Rémi Zanqueta.
Qui oui.
Un très très bon bassiste.
Rémi qui chante également, qui joue dans Vintage actuellement.
Voilà. Anquetil, Zanqueta, Ouvray, voilà. Donc Aza, l'acronyme. Et puis ensuite A-Twin, donc Thierry et moi. Donc on est reparti pour une aventure acoustique. Et puis on s'est de nouveau perdu de vue. Et voilà. Ensuite, j'ai rencontré un chanteur-guitariste. Qui aimait la même musique que moi, la musique des années 70, les Beatles, les Stones, Crosby, Stills, Nash & Young, etc. America, donc Guillaume Hugo. Ça, c'est l'aventure Painbox, on va dire, des années 95, tout début des années 2000.
C'était pas encore le groupe Annexe.
Alors Annexe, c'était le groupe Annexe. C'était un groupe où on récupérait des gens dans des autres groupes pour répondre à des commandes qu'on avait en ordre dispersé. Moi, des fois, on me contactait, tu peux pas jouer, etc. Donc, je sollicitais Fabrice Lafontaine ou enfin bon.
C'était le groupe Plan B en fait.
Voilà, c'était le groupe Plan B, mais c'était aussi avec Farid Lakel à la batterie. Oui. C'était aussi une belle aventure, des belles rencontres, des choses un peu improvisées aussi, donc c'était très sympa, très sympa. Donc on a eu l'occasion dans Painbox de jouer avec Fredo à plusieurs reprises, Fredo qui jouait aussi en duo avec Guillaume Hugo quand moi j'étais pas disponible. Et puis un jour, c'était en 96, j'y repensais là dans la voiture en réfléchissant aux questions que tu allais me poser, parce que tu poses toujours des questions très précises, et je voulais donner les réponses les plus précises possibles. La première fois qu'on a joué dans ce qui pourrait ressembler à Acoustic Trip, c'est-à-dire en duo, mais vraiment acoustique, parce qu'on n'avait même pas d'ampli, on n'avait même pas de sono, c'était dans un petit bar qui est en face le château. Il a changé de nom depuis... Et c'est un bar de jeunes maintenant. Et voilà, c'est la première fois qu'on a joué ensemble. C'est en 96, donc ça fait 23 ans.
23 ans, voilà.
C'est 23 ans.
T'as raison, Jean-Pierre, c'est une des questions que j'allais te poser. Depuis quand existe Acoustic Trip? Voilà,
voilà, on a la réponse. Voilà,
et donc... puis, parallèlement à Acoustic Trip qui poursuit sa carrière en 2019. Il y a eu d'autres projets, d'autres formations, des choses en duo également encore, parallèlement à ça.
Non. Moi, je fais toujours. On est resté en contact. Bon, moi, j'avais une activité professionnelle intense et diversifiée au sein de l'éducation nationale, ce qui fait que on n'avait pas forcément le temps avec Fredo de travailler de façon assez régulière et structurée. Donc, c'était quand on était sollicité comme ça, soit lui, soit moi, que on se retrouvait, on répétait, etc. Mais bon, moi, je suis en retraite de l'éducation nationale. Depuis 2015, et on a...
Quand on est né avant 1975, c'est l'idée.
Voilà, c'est sûr. Hein? Ouais, c'est sûr, je fais partie des privilégiés. Donc là, on a retravaillé plus sérieusement notre répertoire de reprises, et puis aussi l'idée d'écrire et de composer. En anglais, donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous reproche, mais une question qu'on nous pose souvent.
Oui, pourquoi en anglais, pourquoi
bah oui, on ne comprend pas ce que vous chantez. Alors, c'est pour ça que des fois je présente un petit peu les chansons. Moi, je trouve qu'on a du mal, quand je dis « on », je fais référence à notre duo. Hein. Il y a des gens qui font ça très bien. Il y a Bill de Rem, il y a Paul Personne, il y a plein d'expériences. Mais on a du mal, nous, à faire claquer comme on voudrait des textes en français.
Il y a des gens qui y arrivent très bien. On peut citer aussi Patrick Verbeek, ah Blue Boy.
Patrick Verbeek, oui, bien sûr.
Fabrice Falandry.
Moi, j'ai beaucoup. Alors j'ai beaucoup de respect pour des gens qui sont d'une part comme Fabrice. Capable d'écrire en français, de faire sonner des textes en français, avec à la fois des influences et aussi une vraie personnalité dans l'écriture et dans la thématique, et aussi beaucoup de respect, parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, que pratiquement.
Donc, tu ne peux pas savoir si tu y arriverais.
Oui, voilà. C'est-à-dire se produire tout seul.
Oui.
Se produire tout seul. Ça, c'est une chose pour laquelle j'ai infiniment de respect et d'admiration. Une
chose que Thierry Anquil fait très bien
de son côté. Hein. Thierry, c'est quelque chose qu'il fait. Ouais. Mm. C'est quelque chose qu'il fait.
Alors, Acoustic Trip, avec ce disque qui est un live enregistré donc à Mésidon, entre Caen et Lisieux, la salle de la Loco, que tout le monde connaît, avec cette référence à la SNCF, évidemment, mais pas forcément côté français, on va dire plutôt Railway Station américaine, cette pochette, là, tu peux nous en parler?
Alors, tout ça, c'est une histoire de musique, mais c'est aussi une histoire d'amitié, hein, Loco. La Loco, c'est une association de copains, et donc le président de l'asso, c'est un très vieux copain. Et je lui rends hommage d'ailleurs à un moment donné.
On peut le citer, Jean-Pierre.
On se connaît. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. C'est le problème d'inviter des retraités à des émissions.
Bah écoute,
pourtant je connais que
ça va revenir.
Ça va revenir. Ouais. Et c'est une bande de copains qui font vivre un lieu avec une très très belle programmation. Très éclectique, anglo-saxonne aussi bien que française, et où on est vraiment accueilli d'une façon remarquable, où on est sonorisé d'une façon remarquable, et donc on avait plaisir à jouer là-bas. Quand on nous a proposé de jouer là-bas en première partie d'un groupe qui faisait de la reprise des Rolling Stones, moi c'est quand même mon groupe préféré, les Rolling Stones.
Bah, depuis que je te connais, Jean-Pierre, il se passe pas une fois où on se voit, où on parle pas à un moment donné des Rolling Stones.
Ouais. Ouais. Mais bien sûr. Donc Gérard Richard,
ça y est,
revenu, GG, m'a dit tu serais content de faire la première partie d'un tribute des Rolling Stones. Je dis bah oui, bien sûr. Et de fil en aiguille, on s'est dit ça serait peut-être l'opportunité d'enregistrer, parce que là-bas on a toujours un son excellent. On avait déjà joué là-bas avec The Big Muddy, le tribute de Creedence Clearwater, il y a 3 ans. Et on avait dit GG et moi que ça serait bien que je puisse aussi qu'on puisse aussi proposer le duo. Donc comme c'est quelqu'un de parole, voilà, il a pensé à nous. Et pour en revenir à une histoire d'amitié, oui, la pochette, elle a été faite par quelqu'un qui nous sonorise, parce que c'est aussi un sonorisateur et qui est un vieux copain, prof d'art plastique, Christian Richeux, et qui connaît bien notre univers musical. Et sur les deux pochettes, je trouve trouve qu'il l'a, il l'a parfaitement illustré.
C'est le garçon du jour du corbeau, c'est ça?
Voilà, ouais, exactement. D'accord. Qui est bassiste, qui a auteur de, oui, de textes en français, etc. Donc là, il est en train de plancher sur... sur un, peut-être une affiche ou un flyer ou enfin bon voilà, je sais plus comment on appelle ça maintenant, quelque chose qui sert à communiquer, qu'on peut envoyer, qu'on peut mettre sur Facebook, sur notre projet à venir qui est justement un travail autour du répertoire des Rolling Stones, mais de reprise des Rolling Stones traité de façon acoustique comme on le fait déjà, ouais, comme on le fait déjà, mais là ça sera d'une façon un peu plus systématique, c'est-à-dire on proposerait des concerts Stones Unplugged, quoi. Voilà.
Et voilà, et donc tout ce répertoire, on l'a dit, avec pas mal de reprises, dont les Rolling Stones. Ici, on retrouve Under My Thumb, par exemple, ou Jumping Jack Flash. Voilà. Mais on retrouve aussi des choses comme Crossroads, qu'on vient d'entendre, de Robert Johnson, façon acoustique, mais j'allais dire traité un petit peu à la Clapton. Il y a quand même derrière ce côté British blues, malgré la retransposition de l'électrique à l'acoustique. C'est moins la version de Robert Johnson que celle de Clapton que j'ai entendue là. Et puis Stephen Stills, tu parlais de Crosby, Stills, Nash & Young, et puis également des compositions. Alors il y en a deux sur cet album. Moi je te propose qu'on en écoute une, on en parle juste après.
Bien sûr,
hein, on fait ça. Donc Acoustic Trip dans la radio, voici How Do You Feel. Une composition par Le groupe Acoustic Trip en live, live à Mésidon, live à la Loco, un morceau qui sonne assez américain, je trouve, Jean-Pierre.
Oui, 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 ben, c'est ce qu'on disait tout de suite. America, c'est aussi, oui, c'est aussi une de nos influences, enfin, surtout une de mes influences, parce que Fredo est plus jeune que moi, hein, donc il n'a pas été bercé tout à fait avec la même vague de musique anglo-saxonne, mais moi, oui, America, or Swiss No Name, bien sûr, mais c'est les guitares cristallines, c'est les harmonies vocales. Bon, ce sont pour moi les héritiers directs de Crosby, Stills, Nash. C'est américain.
Ouais. Mmh. Et ça fait partie des choses que vous écoutez. On s'en rend compte à travers votre répertoire. Mais il y a également des artistes plus contemporains. Il y a John Mayer.
Oui, alors John Mayer. Oui, alors John Mayer. C'est. Alors, on le présente toujours depuis qu'on joue du John Mayer. Je crois qu'on a commencé à en jouer avec Fredo, à jouer ce morceau-là en particulier il y a une dizaine d'années. Bah, guitariste John Mayer.
Ouais, c'est toujours un jeune. Non
oui, bah, oui, il est toujours jeune, mais de moins en moins jeune au fur et à mesure. Donc, oui, c'est un excellent guitariste et un excellent chanteur, et il a digéré plein d'influences.
Quel âge il a, John Mayer, tu sais?
Ah non, ça par contre... non.
Il vient de prendre 42.
Ah oui, d'accord.
Donc ça reste un jeune garçon quand même.
D'accord, un jeune garçon. Bah oui, bien un gamin, oui, un gamin. Non, mais il a beaucoup écouté Hendrix, il a beaucoup assimilé Hendrix, il a beaucoup écouté Clapton, B.B. King. C'est un bluesman, il fait des balades superbes, il chante bien, il a une vraie présence scénique.
Ça te fait un point commun avec Alexandre Le Sueur, le chanteur des Barn Guys, parce que c'est, je crois, son artiste...
Ah oui, d'accord.
Ah, ouais,
ah mais effectivement, alors je ne savais pas, mais pour avoir vu les Barn Guys en concert,
oui,
j'ai été époustouflé, hein, ouais, époustouflé, ouais, par le concert des Barn Guys, c'était superbe.
Tu parles du BBC?
Oui, au BBC. Ouais, c'était superbe. Il dégage quelque chose. Ouais. Effectivement, oui, effectivement.
Les Barn Guys qu'on trouvera le 8 février à la prochaine Nuit du Blues à Saint-Lô avec Nina Attal et Fred Chapelier. J'en profite pour signaler que ce seront des invités aussi de cette émission fin janvier. Voilà, fin de la parenthèse. Jean-Pierre, on revient à John Mayer, mmh, et puis à tout ce répertoire que tu fais vivre sur scène avec Frédéric Marais. Rappelons que tu chantes également. On va s'en rendre compte tout de suite dans le titre qui vient. L'autre composition de Acoustic Trip, ça s'appelle Blue Daydream.
Blue Daydream, c'est une compo hommage. Comme le disait Gérard, on a un répertoire blues, 70s, des compositions, on aime beaucoup le blues. On vient de là, un peu, aussi, pour paraphraser quelqu'un. Donc c'est une balade, ça s'appelle Blue Daydream. Robert's guitar spread to our ears. Stay at the crossroads, down on his knee. Baby's angry, his Lucille screams. Sweet little angel was just a dream. Muddy say, baby, please don't go. You stay on the bank, watching the river flow. John Lee furiously stamps his feet, messing around with Kennedy. Sitting in my armchair, having a drink. My mind is roaming, my eyes on the blink. Songs scroll in my hand, telling my love, laughters and tears. Building castles made of sand. In a purple haze, he's searching for his band. Stevie's pride and joy flies away. This fateful night in Alpine Valley. Sitting in my armchair having a drink. My mind is roaming, my eyes on the brink. Blue songs scroll in my hand. Telling about love, laughter and tears.
Daydream, extrait du live à la loco de Acoustic Trip.
La guitare, s'il vous plaît.
Un titre dans lequel, Jean-Pierre, on a pu entendre des petites références à des gens comme Jimi Hendrix, comme Stevie Ray Vaughan et d'autres. Tu payes un peu ton tribute à travers
oui,
ça.
Oui, voilà, c'est l'histoire d'un type qui est dans son fauteuil, sur sa terrasse, qui regarde le soleil se coucher en buvant un bon pur malt, et puis qui se laisse se gagner par des images. Donc effectivement, il y a quelques références à B.B. King, Stevie Ray Vaughan. Voilà, c'est un petit morceau c'est un hommage un peu nostalgique avec un petit clin d'œil parce que Fredo est un excellent guitariste, ça tout le monde le sait depuis longtemps, et éclectique, et avec ce petit côté il avait envie d'envoyer une petite rythmique manouche pour me mettre un peu au supplice, parce que moi c'est un domaine dans lequel je suis pas du tout expert.
Tu fais pas la pompe toi, Jean-Pierre.
Donc il m'a dit tu feras pas la pompe mais tu feras un petit solo, donc voilà. Ouais. Donc c'est un clin d'œil pour rendre un peu hybride aussi cet hommage, parce que du coup ça devient un hommage à pas seulement au blues, mais aux musiques d'émotion, quoi. Et la musique manouche, c'est aussi une musique d'émotion, hein, voilà. Et donc ces compos, les compos qu'on fait, elles traitent un peu de ça, c'est-à-dire elles explorent aussi l'univers qu'on visite à travers nos reprises, c'est-à-dire des balades. Donc il y a un côté balade, un côté un peu social. Là, on vient de composer un morceau qu'on n'avait jamais joué. On l'a joué au Jules Verne Blues Band, au Jules Verne Blues Festival qui a eu lieu le week-end dernier.
Ouais.
C'est un morceau qui s'appelle Real or Fake. C'est un morceau, on l'a répété une fois et puis on s'est dit bah tiens, on va le jouer samedi. Donc on l'avait vaguement bidouillé la semaine d'avant, on l'a répété deux jours avant et puis on l'a joué avec, en comptant sur l'indulgence du public, et finalement c'est bien passé. Donc c'est un morceau avec une thématique un peu sociale, c'est-à-dire sur real or fake, c'est ce qu'on nous dit dans la presse, ce qu'on nous dit à travers les ondes, ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux. On n'arrive plus tellement à savoir, à démêler le vrai du fake, le vrai du faux, quoi. Et donc ça c'est quelque chose de dramatique, donc c'est la contribution un peu, c'est un peu prétentieux, mais un peu social à notre mode d'écriture de texte, quoi.
Et voilà, tu viens de faire une parenthèse à propos du Jules Verne Blues Festival.
Oui.
Ça s'est bien passé.
C'était très bien passé. Alors, on ne pouvait pas y être ni l'un ni l'autre le vendredi, mais il paraît que le vendredi, c'était vraiment
il y avait
super.
Westbound et puis
Westbound, Westbound avec Laurent Choubrac et Thierry Anctil dans une version plutôt jazz avec un contrebassiste apparemment impressionnant.
Ah oui.
Ouais. Et donc, le samedi avec le Belfi Spirit, et puis nous en première partie. Donc non, c'était vraiment une belle soirée. C'était une belle initiative de notre. C'est aussi une histoire d'amitié, ça, avec Joël Jeanne, hein, qui s'est toujours bagarré pour qu'il y ait de la musique dans ce lycée, pour que les gamins puissent avoir des cours de guitare. D'ailleurs, Fredo a donné des cours de guitare aux élèves de Jules Verne. On y a joué souvent. J'y ai joué avec Thierry Antil, j'y ai joué avec Paintbox, j'y ai joué. Voilà, donc c'est.
Ça, forcément, c'est quelque chose qui t'a toujours motivé. Tu parlais de ta carrière à l'Éducation nationale, bien sûr, mais le fait d'être capable de faire de la passation, de transmettre ton savoir, que ce soit en termes de guitare, de chant, quelque chose qui te préoccupe, qui t'intéresse.
Oui, c'est vrai que bon, j'ai travaillé pendant longtemps sur un établissement où j'ai eu l'opportunité de croiser Michel Batrel, qui était le fondateur du
lycée Marcel Gambier de Lisieux.
Lisieux Blues Festival. Et donc, il m'avait dit, mais tu crois qu'on pourrait venir faire du blues dans ton lycée au moment du festival? J'ai dit, mais voilà, j'en ai parlé au proviseur qui était très ouvert à ce genre d'initiative. Donc tous les ans, tout le temps qu'a duré le Lisieux Blues Festival, on a fait venir effectivement, bah, tu parlais de Verbeek est venu jouer. Ouais, ouais. Voilà, c'était en ouverture du Lisieux Blues Festival, de même que les musiciens du Lisieux Blues Festival allaient jouer à l'hôpital. Ils venaient jouer au lycée. C'était voilà. Et donc la grosse surprise que m'a faite Michel Batrel, quand j'ai quitté le lycée, moi je me refusais à jouer là-bas. Je voulais pas être un peu instigateur et en même temps acteur.
Voilà. Qui prenant trop, quoi.
Donc il m'a dit, j'ai pensé à un groupe. Je sais bien que t'es plus au lycée, mais est-ce que tu penses que ça pourrait se faire? Alors je dis, bah oui, dis-moi, je peux prendre contact. Il me dit, tu vas prendre contact avec Jean-Pierre Auvray, puis tu vas lui demander s'il veut bien jouer. Donc ça, c'était en 2000. C'était vraiment...
sur la fin du Lisieux Blues Festival.
Oui,
hein.
C'était sur la fin. Ouais,
tu as des nouvelles de notre ami Michel Batrel?
Non, c'est dommage d'ailleurs. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. C'était vraiment un très très beau festival.
C'est vrai.
Très très beau festival.
On a vu des beaux noms, hein, dans les années 90 là-bas.
Les Allison, le père et fils.
Mactissa McLean.
Ouais. Et puis celui qui faisait la cuisine sur scène. Là.
Ah oui, alors Glassoff's Dave, un truc comme ça.
Ouais.
C'était Microwave Dave, je crois.
Voilà, il préparait le gumbo sur scène.
Le type avait fait à bouffer pour plus de 150 personnes.
Ouais. On y a joué aussi. On a vraiment eu des très 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 beaux souvenirs sur ce festival-là.
Je suis pas sûr du nom d'ailleurs. Je suis en train de me demander s'il n'avait pas changé de nom depuis.
Mais il y avait gumbo dans son.
Encore une fois, voilà, un partout. Hein, faut Alzheimer. Moi, je me souviens de Lefty Diz. Je me souviens quand même de Rufus Thomas.
Je me souviens
de R.L. Burnside. Il y a eu des gens incroyables qui sont venus à Lisieux.
Rufus Thomas. Et le fils du producteur de Stevie Ray Vaughan, guitariste blues acoustique, on a fait sa première partie. Il y avait un guitariste de blues acoustique français, j'ai oublié son nom, qui a joué avec Jonas quand Jonas... Ça a été un très beau...
C'est pas l'année où il y a eu Jean-Jacques Milteau vers la fin, non?
Non, 2001, je te parle en 95, mais bon.
D'accord.
Voilà. J'aurais dû réviser.
C'est pas grave. Voilà, on était en train de parler du Jules Verne Blues Festival. Et puis, en matière de souvenirs, moi, j'ai oublié de te faire évoquer Memphis Slim en 1987 à la salle Georges Brassens. Il n'y a plus Memphis Slim, il n'y a plus la salle Georges Brassens à Caen. Il y a tout un pan de cette histoire de nos années 80 hein, qui part en lambeaux. Mais il y a quand même des souvenirs qui restent, forcément, d'avoir partagé la scène avec un des géants du blues, un des créateurs. Pionnier du piano de l'immédiate avant-guerre et de l'après-guerre. Memphis Slim, un souvenir, Jean-Pierre?
Ah oui, plein de souvenirs. Quand Christian Langeois nous a demandé si on voulait bien le voir avant de monter sur scène, évidemment, on a dit oui. On a vu un monsieur dans sa loge, appuyé sur sa canne à pommeau d'argent, en train de siroter un espèce de thé, etc. Alors que on savait quand même qu'il buvait plutôt du Johnny Walker quand il était avec son comparse contrebassiste Willie Dixon. Hein, ils avaient leur bouteille chacun pour le concert. Et on s'est dit, c'est pas possible, il va pas monter sur scène cet homme-là, il est pas en état, quoi. Et on était très émus et un peu inquiets. On était tous un peu inquiets. Et quand il est arrivé sur scène, il était transfiguré, quoi. Alors, il n'a pas joué longtemps, mais c'était extraordinaire. Et nous, on était encore dans l'émotion et dans l'adrénaline, mais on avait enlevé nos bottes mexicaines et nos tenues de scène. Et quand Georges, le batteur, donc il était là avec son batteur.
Georges Collier, oui,
voilà,
exact.
Son batteur anglais, qui était sa nounou en même temps.
Hein. Ouais.
C'était un type qui avait vraiment beaucoup d'affection pour lui. Il est venu nous chercher dans la loge pour dire il veut jouer avec vous. Et alors là, ça a été bon. Alors, en panique, on a remis nos chaussures. Bon, puis il est parti, il nous a pas dit dans quelle tonalité il allait jouer, il nous a pas dit ce qu'il allait jouer. On a fait ce qu'on a pu, mais c'était un moment d'émotion intense. Ouais. Après, on a mangé à la mandarine avec lui, un restaurant qui n'existe plus.
J'y étais, c'était rue Lacan.
Mais oui, bien sûr.
C'est là que j'avais eu l'occasion de demander à Memphis Slim, étant donné que Thierry peut-être cherchait un pianiste, ça y est, on a trouvé, on t'embauche. Il a bien rigolé.
Ouais.
Je me souviens, pendant le concert, sur le côté gauche de son piano, il avait une petite assiette avec plein de citrons, il bouffait du citron.
Oui, c'est vrai.
Pour l'instant,
c'était un merveilleux souvenir. Mmh. C'était un merveilleux bonhomme, quoi. Il avait joué à Courseul, à l'époque, il y avait une boîte qui organisait des soirées blues dans les années 70.
Ouais, ouais.
J'ai oublié le nom de la boîte, pourtant j'ai beaucoup fréquenté par la suite, le jeudi soir. Mmh. Et c'est un copain qui m'a rappelé qu'il avait joué là-bas. Bon, en fait, il était très francophile, il vivait à Paris, hein, sa femme était française.
Il avait d'abord émigré au début des années 60 sur Israël, et puis ensuite, il était devenu parisien. Et il avait longtemps joué avec Matt Guitar Murphy. Hein. On se souvient de Guitar Murphy, des Blues Brothers notamment.
Ouais.
Memphis Slim, grand souvenir. Il y a d'autres artistes comme ça avec qui tu partages des souvenirs, des gens dont tu es heureux, fier d'avoir fait la première partie, d'avoir côtoyé.
La rencontre avec Otis Rush, parce que on était ému de voir Thierry tellement ému de faire la première partie d'Otis Rush. Et le responsable du...
C'était au Casino de Deauville, ça ?
Non, Otis Rush, c'était à Cahors, en 88.
Ah oui, Cahors.
Casino de Deauville, c'était Chuck Berry. Donc ça, c'était autre chose. C'était très sympa sur le plan de la rencontre, parce que tout le monde le cherchait pour faire la balance. Il avait pas envie de faire la balance.
Non, mais il fait jamais de balance.
Non, il jouait aux cartes avec des Anglaises en buvant une Kronenbourg. Donc on avait fini par le trouver. Ouais, voilà, c'est un grand échalas plutôt sympathique qui nous mettait des grandes claques dans le dos. Et musicalement, c'était très approximatif. Mais par contre, Otis Rush, le responsable du festival de Cahors, qui avait eu notre setlist, avait vu qu'on voulait jouer All Your Love, qu'on envisageait il voulait pas qu'on le joue parce que c'était le morceau fétiche d'Otis Rush. Donc on est allé trouver au culot Otis Rush à l'hôtel. Il nous a reçu très gentiment et on lui a demandé l'autorisation de jouer All Your Love. Il nous l'a donné et donc aux grandes dames du responsable du festival, dont j'ai oublié le nom, mais qui n'était pas quelqu'un de très sympathique.
Ah bah c'était l'avocat, c'est lui qui avait créé le festival en 82.
Voilà, c'était l'avocat, c'est ça. Et on lui a dit, avec l'autorisation spéciale de monsieur Otis Rush, nous allons vous interpréter All Your Love. Donc il n'était pas content, mais tant pis, mais c'était... Et j'ai joué quand même pendant 5 ans avec Thierry Anctil dans Urban Blues Band.
Oui.
J'ai jamais eu autant les poils dressés sur les bras que dans sa version de All Your Love ce soir-là. C'était vraiment impressionnant, quoi. Ouais.
Dernière question, Jean-Pierre, avant qu'on se quitte, tu as à nouveau envie de jouer en électrique, à l'occasion de tout ça ?
Non, je me suis régalé à écouter Fredo en électrique, parce qu'il y a longtemps que je n'avais pas joué avec lui en électrique l'autre jour, alors il m'a prêté son électrique pour le bœuf, là, qu'on a fait avec Memphis Spirit sur scène. C'est un magnifique concert de Memphis Spirit, vraiment, c'était super, et je me suis régalé de les écouter, je me suis régalé d'écouter Fredo en électrique, sur sa Telecaster et son Mesa Boogie, et Larry Dacoste et Franck à la batterie et Brigitte à la basse, c'était vraiment super. Je crois que j'ai tourné cette page là. Voilà, je suis parti sur autre chose, sur un truc qui recherche une authenticité à travers la voix et la guitare sans effet. On a du plaisir à jouer avec une section rythmique acoustique. Hein. Mm-hmm. Là, on est en train de travailler sur un répertoire de reprises des Stones acoustiques en revisitant les morceaux et en leur donnant une couleur acoustique trip, comme on a pu le faire. C'est un morceau qui marche bien, Jumping Jack Flash, puisqu'on a changé le tempo, etc. On a essayé de pas dénaturer l'esprit. Donc On ne désespère pas de retravailler ça en formule acoustique avec basse acoustique et puis batterie ou caronne, mais pour moi, l'électrique, non.
Voilà. D'accord. Acoustic Trip avec Bad Moon Rising, Love the One You're With, pardon, Crossroads, Under My Thumb, How Do You Feel, Blue Day Dream, Hey Bulldog, Got Love on the Way, Jumping Jack Flash et Personal Jesus. Tout ça, ça figure sur le live à la Loco. Voilà. Dernière question, Jean-Pierre, comment on se procure l'album? Juste avant d'écouter un dernier titre.
Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. Alors, on a fait le showcase de sortie de l'album dans un bar qui s'appelle l'Agora. C'est un bar PMU.
À Caen.
Voilà, c'est Christophe et Sandrine n'avaient jamais accueilli de groupe. Et bon, là, ils ont accueilli un duo super, Salem 2.0, pour la fête de la musique parce qu'on n'était pas disponible. Ils ont accueilli un chanteur il n'y a pas longtemps pour le Beaujolais Nouveau. Ils nous ont accueillis pour la sortie de cet album, donc ils ont accepté de. Donc, si vous voulez trouver cet album,
il y a un dépôt.
Voilà, ouais. l'Agora, ouais. Boulevard Le Roy à Caen.
Très bien.
Ouvert du lundi matin au samedi après-midi.
Et puis, à défaut, si on n'est pas à Caen, on peut éventuellement te contacter via Facebook.
Voilà, via Facebook. Voilà, puis on s'arrange. On envisageait peut-être d'en mettre en dépôt à Monteville, le grand magasin de
Cultura.
Cultura.
Il y a aussi une autre possibilité sur le centre-ville, rue Arcis de Caumont, donc chez notre ami Gilles Ferrand.
Si c'est possible, on peut lui laisser. Tout à fait, bien sûr.
Voilà. Jean-Pierre, merci pour tout.
Merci de ton accueil.
Tu salueras Frédéric Maé.
Voilà, là il est parti pour faire de la musique pour les petits enfants, les petites filles et les petits garçons au sein de Mandarine, je crois, pour la journée. Ouais. Il a un programme très chargé, s'il pouvait pas être là.
C'est un peu la fin de l'année en même temps.
Voilà.
Bon. Merci Jean-Pierre.
Merci à toi.
À bientôt. On écoute Acoustic Trip avec Personal Jesus.
Merci à vous pour votre qualité d'écoute, en tout cas.
You Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling new on you all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up receiver and make you believer. Child and touch face. Reach out and touch face. Reach out and touch face. Reach out and touch face.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était du live.
Frédéric Mahé.
Jean-Pierre Auvray, Frédéric Mahé, c'est le groupe Acoustic Trip, live à la Loco, et puis on peut se procurer l'album, je vous rappelle, donc sur l'Agora, rue Boulevard Leroy, pardon, à Caen, et puis très prochainement dans d'autres endroits, vous l'avez compris, et puis sinon, bah, tout simplement en contactant Frédéric Mahé ou Jean-Pierre Auvray via Facebook. On poursuit avec le disque du mois, c'est toujours Galia, c'est toujours l'album Mississippi Blend. Voici Drag Me Down, Galia.
Thank you.
Down. Mississippi Blend, c'est le titre de l'album. Roof Records, c'est le label. Et la chanteuse Galia, qui sera prochainement l'invitée de l'émission le 11 janvier prochain. Les prochains invités seront donc le 21 décembre, c'était samedi prochain, Jean-Christophe Panico et Laurent Choubrac pour leur actualité et la sortie de leur album Va savoir où ce chemin nous mène, avec un live prévu dans la salle du Portobello, je crois que c'est le 10 janvier 2020, voilà, qu'on se le dise. Et puis le 11 janvier, il y aura Galia, il y aura également Carole Crimi pour la sortie de l'album de K and the Blue Devils qui s'appelle Once Upon a Time. Et pour être tout à fait complet sur janvier, le 25 janvier, je recevrai Patrick Dubois de Vox Tour Décibel, Alexandre Le Sueur des Barn Guys, Fred Chapelier et Nina Attal pour la deuxième nuit du blues à Saint-Lô qui se déroulera le 8 février 2020. Et puis Matt Van Der Schen, c'est une date toute fraîchement notée qui n'est pas encore sur le site. Lui sera interviewé le 1er février 2020. Voilà. Nous, on poursuit avec quelques dédicaces. Il va y en avoir deux ou trois maximum parce qu'on est en format court. On est en format 2 heures pour ce Sweet Home Chicago, c'est-à-dire qu'à 15 heures, c'est terminé. On donnera rendez-vous vendredi prochain, vendredi 21 décembre. En attendant, voici un titre qui m'a été réclamé par Arnaud Didier qui s'appelle High Head Blues. Voici The Black Crowes dans la radio.
I have
Voilà, ça c'était The Black Crowes. Et puis je crois qu'on va avoir le temps juste d'écouter une autre dernière dédicace. Celle-ci, elle m'a été réclamée par Candy Bushan Bowman, qui habite à Saint-Louis, au Missouri, et qui écoute très régulièrement Sweet Home Chicago. Oui, oui, oui. Et elle m'a réclamé un titre de Neil Diamond. Je crois que c'est la toute première fois que je passe du Neil Diamond dans l'émission. Ce sera pour aujourd'hui. Voici ce titre qui s'appelle Crackling Rosie. C'est avec ça qu'on se quitte pour ce 1072e Sweet Home Chicago. Salut, bye. Ah,
Cracklin' Rosie, get on board. We gonna ride till there ain't no more to go. Taking it slow. And Lord, don't you know, I'll have me a time with a poor man's lady. Hitching on a twilight train. Ain't nothing here that I care to take along. Maybe a song when I want. Don't need to say please to no man for a happy tune. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Crackling Rose, you're a store-bought woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on. The world right. Find us a dream that don't ask no questions, yeah. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Crackling Rose, your store-bought woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on. Last for an hour, well that's alright, 'cause we got all night to set the world.